Bonjour à tous et toutes, nous sommes en février et c'est la chronique reconnaissante avec Lydie. Bonjour Lydie.
Bonjour.
Alors on est en février, donc en plein hiver encore, et il y a du boulot. Il y a du boulot au jardin, il y a pas mal de choses à faire. Nous allons parler donc des semis, nous allons parler des plantations, et en plantation on va parler du ragoût minier. Moi personnellement j'ai découvert le ragoût minier il y a 10 minutes, on va en parler avec Lydie, nous allons parler des chignons racinaires. Nous allons aussi parler du purin de feignasse. Oui, oui.
Le
purin de feignasse. Nous allons parler de récolte de scorsonaire. Pareil, j'ai découvert ce que c'était que le scorsonaire. Nous allons parler des bons gestes, des soins, de la taille de vigne, tiens, ce mois-ci. Des bons gestes pour la faune. Est-ce que c'est le bon moment ou pas pour installer un nichoir? Tôt, tard? Est-ce qu'on peut encore en installer un ou pas? Des calendriers lunaires? Est-ce qu'on jardine avec la lune? Ça, c'est intéressant aussi. Nous allons parler du bouquin, de la recette, et quand on va parler de la recette, on va parler du pruneau, qui est apparemment le fruit phare du mois de février. Lydie, commençons, parlons semis.
Alors, on va semer sous abri, donc en serre froide. Ça, moi j'adore la serre froide, parce que les graines germent au moment où elles veulent. Donc, au bon moment. On va semer les laitues de printemps, donc principalement la laitue de Saint-Antoine. On va semer les verdures de printemps, donc le chou mizuna, la roquette, les aroches, la verte ou la pourpre, qui sont des choses que l'on peut manger comme des salades. On a aussi, par exemple, des salades qu'on va cueillir feuille à feuille, qui sont très pratiques quand on a de tout petits espaces, par exemple un balcon, pourquoi pas. Donc là-dedans, on a la cressonnette marocaine, on a les oreilles du diable, qui sont une romaine un petit peu oubliée et qui est pourtant délicieuse. On a les feuilles de chêne, salade bowl et red bowl, qui sont très sympas parce qu'elles mettent de la couleur dans nos assiettes.
En janvier, on a parlé de la tomate. Est-ce que forcément, on va continuer à reparler de la tomate?
Alors,
c'est un mois aussi pour semer des tomates.
On va semer les tomates. Donc, si on a semé nos précoces au mois de janvier, on va pouvoir attaquer au mois de février les autres. Sans ça, on peut semer aussi les précoces au mois de février, bien évidemment. Donc là, eh bien pareil, serre froide et on attend qu'elles germent quand elles ont envie, quand c'est le bon moment pour elles. On va aussi semer le céleri branche et tous les céleris. Moi j'aime bien le céleri branche Tal Uta puisque c'est une variété qui est biannuelle et si elle n'a pas d'à-coups d'arrosage et pas de sécheresse l'été, elle met 2 ans avant de monter à graines. Donc c'est pour moi une bonne pioche. Céleri très aromatique qui a le gros avantage de ne pas avoir d'amertume.
Est-ce qu'on en trouvera dans la grénothèque cette année?
Oui, il y a du céleri Tal Uta à la grénothèque.
Super.
Alors, sa particularité aussi, chez moi, je ne les laisse pas grainer en même temps que le persil. C'est-à-dire, une année, c'est le persil qui monte à graines et je récupère les graines de persil. Et une année, c'est le céleri branche. Pour la bonne raison que les deux s'hybrident naturellement très bien et qu'ensuite, on a des graines qui vont faire un végétal qui ne sera ni persil, ni céleri, et qui ne sera pas bon du tout. Voilà. Donc en place, on va semer les fèves, on va semer les petits pois, les carottes primeurs, les navets que l'on mangera en primeur, et évidemment les radis.
D'accord, très bien. Tu voulais nous parler de fleurs annuelles également?
Oui, on va semer les œillets d'Inde, les cosmos, les pois de senteur. Pour ceux qui ont l'habitude de semer en couche chaude ou tapis chauffant, eh bien vous pouvez semer donc les poivrons, les piments, les aubergines. Mais en général, ça, vous le savez, parce que pour semer avec ce type de pratique, il faut être très, très pointu et très minutieux en jardinage. C'est une pratique qui ne supporte pas à peu près.
D'accord. Est-ce que toi, tu as un tapis chauffant à la maison?
Non.
D'accord.
Je ne m'en sers pas. Je pense que je ne suis pas suffisamment rigoureuse pour avoir ce type de pratique.
D'accord. Pour les débutants, quels conseils tu pourrais donner?
Éviter absolument le dessus du radiateur. Pour moi, c'est la meilleure méthode pour foirer un semis.
Quand tu dis foirer, c'est...
Disons que ça va faire des plants qui vont filer rapidement, qui vont s'étioler et surtout qui vont se coucher et qui vont mourir.
D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour des semis?
Oui, on a fait le tour des semis.
Alors parlons plantation.
Comme le mois dernier, ail, oignon, échalote, hein, les petits trucs habituels. Après, on a encore les arbres fruitiers, les arbustes, tout ce qui est cassis, framboisier, groseillier, on peut encore les planter s'il a fait trop froid au mois de janvier, par exemple, hein, puisqu'on ne plante pas quand on a des périodes de gel. On plante toujours sur des périodes où il ne gèle pas.
D'accord. En introduction, je parlais du ragoût minier. Tu m'as fait découvrir il y a 10 minutes le ragoût minier. Alors, fais-nous découvrir.
Alors, le ragoût minier, on l'appelle aussi cerisier de Nankin. Il a un joli feuillage. C'est un port érigé. Il monte à peu près 1,80 m de haut. Il a besoin, en général, d'un sol assez drainant. Donc, c'est adapté, on va dire, au secteur. Le ragoût minier, il fait des espèces de petites cerises qui sont plutôt des drupes et que l'on va retrouver collées un petit peu contre le tronc. Il n'y a pas de pédoncule. Et donc, ça se consomme en frais, ça se consomme en confiture aussi, ou en gelée. Et on a aussi, par exemple, de la même manière, chose qu'on est un petit peu en train de redécouvrir, on a l'argousier, par exemple, qui a des épines assez terribles, qui a un feuillage persistant, mais assez fin, et surtout qui fait partie, par exemple, l'argousier des super aliments, parce que ces baies sont très riches en antioxydants et en vitamine C. On a aussi le feijoa. On peut faire une huile persistante nourricière avec le feijoa. Il est bien plus sympathique que les thuyas ou que le laurier palme. Et il peut monter à 1,80 m aussi sans problème, même si sa pousse est beaucoup plus lente. Donc ça, c'est des variétés que l'on va retrouver, par exemple, chez Plantfort.
Oui, parce que justement... ragoût minier, argousier, on n'a pas l'habitude d'en planter dans son jardin. Et donc, tu dis qu'on les trouve chez Plantfort. Plantfort, c'est local.
Oui, c'est tout à fait local. C'est à Huchac et Parentis. Ils ont un site de vente qui est très bien fait. Mais ils font aussi de la vente sur place. Donc, on peut très bien aller chez Plantfort. Il suffit d'aller regarder leurs horaires d'ouverture au public sur Internet ou sur leur site. Et on va chercher ces végétaux. Et éventuellement, on en découvre d'autres. Parce qu'ils ont quelques pépites.
D'accord, super, ça c'est une très très bonne adresse. Parlons maintenant de chignon racinaire, parce que justement j'ai une question un peu technique là-dessus. Quand on plante un arbre, donc l'hiver, on a plusieurs techniques, il y a plusieurs écoles comme d'habitude. On a un chignon racinaire, soit on y touche, soit on n'y touche pas. Comment tu procèdes toi ?
Alors moi j'y touche. Quand on achète des végétaux à racines nues, on retaille toujours un petit peu ses racines, on les praline et ensuite on plante. Quand on a un arbuste qui est en conteneur ou en pot, systématiquement, l'idéal avec une fourchette, on démêle l'extérieur, on coupe. Moi je coupe. Hein. Alors soit un sécateur bien aiguisé parce qu'il faut couper la racine, il ne faut pas l'écraser en la coupant, ou alors tout simplement une paire de ciseaux et on coupe. Sur certains qui ont beaucoup chignonné, c'est-à-dire qui ont tournicoté au fond du pot, ou si on a un matelas assez épais, on n'hésite pas à couper jusqu'à un tiers. On peut couper selon les végétaux.
D'accord, très bien. Parlons maintenant de division de bouturage. Est-ce qu'il y a des boutures à effectuer en février ?
Alors en février, en général, on commence à avoir quelques belles journées, quelques beaux après-midi. Donc là, on a la ciboulette qui va pointer le bout de son nez. Donc ça va être l'occasion de la diviser, de faire quelques pots pour donner à ses voisins, ses voisines, ses copines de jardinage, ou alors tout simplement en amener au troc vert.
Et oui, ce troc vert qui aura lieu donc cette année, normalement le 24 avril. On attend confirmation de la mairie de Saint-Pierre-du-Mont. Mais il aura lieu donc le 24 avril au jardin familial de Saint-Pierre-du-Mont. La consoude, parlons un petit peu de la consoude. J'ai parlé en introduction du purin de feignasse. Qu'est-ce que c'est que ce purin de feignasse ? Est-ce qu'il y a un rapport avec la consoude ?
Ah oui, tout à fait. Comme tous les purins, on peut le faire d'une manière très... oui, très soft, en passant un minimum de temps et en se facilitant la tâche. Avec un vieux rideau très serré, on va faire une espèce de sac. Dedans, on va mettre de la consoude ou un autre végétal qu'on veut faire en purin. On met une petite pierre, mais pas non plus qu'un truc énorme. On boucle, on ferme ce sac avec un lien. On le met, par exemple, dans une poubelle ou dans un contenant en plastique avec un couvercle très important pour éviter d'avoir des moustiques, parce qu'on ne va pas non plus faire un élevage. Mmh. Et ensuite, on place un bulleur au fond du contenant. On va comme ça oxygéner le purin. Donc, le purin, en général, selon les températures, est fait entre 4 jours si on a des journées à 26-28 degrés, voire une semaine si on a des journées qui sont plus fraîches, de l'ordre de 17-18 degrés.
Donc là, on n'est plus en février, on est mois de mai, mois de juin.
Mars-avril.
Oui, oui. Ah, très bien.
En général, mars-avril, la consoude fait déjà une quinzaine de centimètres, voire une vingtaine. Je continue juste.
Oui, pardon.
Au niveau du purin, on n'a pas besoin, comme ça, quand il est fait, de le filtrer. Donc, on peut directement le mettre en bouteille. Et après, on peut l'utiliser, bien évidemment, dilué. Parce qu'il permet, ce purin de consoude, de stimuler les défenses naturelles des végétaux. Donc, il est vraiment précieux.
Un engrais naturel.
Tout à fait. On va aussi réaliser des paillis avec les feuilles de consoude. On n'est pas obligé de faire du purin, qui vont avoir les mêmes vertus dans le sens où elles vont enrichir le sol, principalement en potasse. Et la potasse, c'est la fructification et c'est la saveur des choses qui auront fructifié. Oui, là donc, au mois de février, ce qui nous intéresse, c'est de diviser la consoude et de faire des boutures de racines. Donc, on coupe des bouts de racines et tout simplement, on les remet en terre.
D'accord, très bien. Très important d'avoir de la consoude dans son jardin lorsqu'on jardine d'une manière naturelle.
Oui, et puis c'est quelque chose qui peut se consommer pour la bonne raison que la consoude jeune est comestible. On peut la faire en tempura, donc en beignet, et on peut aussi l'associer avec des orties coupées en petits bouts et avec des graines dans un cake salé, par exemple.
D'accord. On a fait le tour, division, bouturage, parlons récolte. Est-ce qu'il y a des choses à récolter en ce moment ?
Il y a encore des choux au jardin.
Toujours
des choux. Donc on va récolter des choux, les chicorées, les épinards, la mâche, encore des poireaux. Alors les poireaux, vous pouvez aussi en février encore, pour les récolter, vous les coupez à 1 cm du sol et ils vont repousser. Alors ça ne va pas être énorme, mais ça vous permettra d'avoir une seconde petite récolte dans 2 mois.
Très bien. Les bons gestes, les soins, la taille, tu veux nous parler de la taille de la vigne?
Pour ceux qui n'ont pas taillé à la fin de l'automne, on va la tailler maintenant. Il faut absolument la tailler avant fin février, début mars, de manière à éviter les écoulements de sève qui vont l'affaiblir. On dit à ce moment-là que la vigne pleure, et ça, c'est pas bon signe. Avec les coupes de la vigne, on va faire des boutures.
D'accord.
Et on en profite, une fois qu'on a taillé notre vigne, de lui mettre un petit peu de compost ou un petit peu de fumier, de préférence sur le paillis, parce que la vigne, elle a un paillis de feuilles. On l'a éventuellement paillé avec ses propres déchets de coupe et on lui a laissé les feuilles qui sont tombées au pied à l'automne. Donc on rajoutera juste un tout petit peu de fumier par-dessus, éventuellement une poignée de cendres pour un petit chouïa de compost supplémentaire, et ça suffit.
D'accord. Quels sont les autres gestes fin de mois? Tu m'as dit compost, fumier, bois mort. Toi, t'en fais quoi au jardin?
Le bois mort, on le laisse dans un coin du jardin. Ça permet comme ça d'abriter des auxiliaires. Ils y trouvent pour certains de la nourriture. Oui, le bois mort est aussi une excellente ressource au jardin.
D'accord. Le compost, le fumier, histoire de préparer un petit peu le printemps qui va arriver, redonner un petit peu de fertilité à son sol.
Voilà, il faut redonner, on va dire, un petit peu de fertilité au sol. Et toujours pareil, la fertilité vient des couches supérieures et s'enfonce progressivement. Donc, on n'a pas besoin de gratouiller le sol, on n'a pas besoin de bêcher superficiellement, on n'a pas besoin de l'incorporer. Ce sont les éléments qui vont l'incorporer progressivement.
Très bien. Tu voulais nous parler des pommes de terre également?
Oui, alors c'est un petit peu le mois où on pense plantation de pommes de terre. Donc, pour ceux qui achètent leurs plantes de pommes de terre ou ceux qui ont gardé leur grenaille, parce qu'on peut très bien garder sa grenaille aussi, on les met dans des alvéoles type vieille boîte à œufs, derrière une fenêtre plein sud hors gel, par exemple dans un garage, et on va avoir des germes qui vont être bien verts, bien trapus, et qu'ils ne seront pas cassés quand on va les mettre après en terre. Voilà, donc pensez déjà aux futures plantations de pommes de terre, c'est hyper important.
D'accord, tu m'as aussi parlé des scorsonaires. On peut en trouver apparemment à Place Saint-Roch au marché.
Oui, comme les salsifis.
Qu'est-ce que c'est? Voilà, ce sont des salsifis. C'est la même variété.
Alors, c'est pas tout à fait la même famille. Ça se développe comme une carotte. C'est quelque chose qui reste à peu près 8 mois en terre. Hein. Donc, c'est comme la carotte. On a quelque chose qui est assez long en culture. Donc, sur les petits jardins, c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver fréquemment. C'est un légume qui est un petit peu délaissé et pourtant, il a beaucoup de qualités. Il va, par exemple, très très bien accompagner le canard, le poulet. Et toutes les viandes blanches.
Parlons maintenant des auxiliaires de jardin, nos amis, les animaux qui sont très très utiles au quotidien pour entretenir un potager, pour réguler, on recrée un écosystème, on prend soin d'eux. En janvier, on a parlé des oiseaux, on va reparler encore des oiseaux en février.
Donc voilà, donc on continue d'aider un petit peu les oiseaux à passer ces moments difficiles d'hiver. Donc toujours pas de pain, toujours pas de gâteau, des graines de tournesol noir bien évidemment, éventuellement un petit peu de margarine de tournesol, ils aiment bien, donc on peut leur donner de la margarine de tournesol, et surtout on peut installer un nichoir, c'est encore temps, même s'ils n'auront pas eu l'hiver, enfin le début de l'hiver et la fin de l'automne pour repérer, on ne sait jamais, on installe un nichoir. Donc on va l'installer à 2,20 m de haut sur un endroit dégagé pour qu'ils puissent voir leurs prédateurs, avec un trou d'envol de 28 mm pour les mésanges. Pour les autres oiseaux, allez jeter un œil sur internet. Et surtout, le trou d'envol doit être exposé sud-est.
Très important, l'exposition. Oui.
Très très important, puisqu'on évite comme ça le côté ouest qui est la porte d'entrée des intempéries.
Tout à fait. Parlons un peu de la lune. Est-ce que tu es du genre à jardiner avec la lune ou sans la lune?
Alors, je me donne bonne conscience. Dans ma tête, je mets toutes les chances du côté de mes végétaux en jardinant, on va dire, à 60-70% avec la lune. Après, quand la météo n'est pas de la partie, je sais très bien oublier mon calendrier lunaire. Et je pense aussi qu'on a plein de semis spontanés qui vont donner de très très bons résultats. Et la question, c'est est-ce que la nature a libéré les graines au bon moment lunaire ?
Parlons littérature. En janvier, on a parlé des émotions des plantes. Apparemment, ce mois-ci, on met les émotions de côté, on va parler de business, c'est-à-dire.
Oui, ce mois-ci, c'est le Grand Business des plantes qui est édité chez Plume de Carotte, que j'aime beaucoup. Il coûte 29 € et lui, je l'ai acheté neuf. Alors ça s'achète chez un bon libraire, c'est-à-dire un libraire vrai, qui connaît très bien son métier. Et moi, je suis très attachée aux libraires qu'on trouve dans nos villes, pas les libraires qu'on va trouver sur le net, avec des pratiques humaines et environnementales qui ne sont pas bonnes du tout. Donc, ce livre, Le Grand Business des Plantes, parle de lobbying, de commerce illégal, de pratiques démesurées, de finances, de performances et de dérives, bien évidemment. Il est très complet, il permet de comprendre les enjeux de l'appropriation du vivant et il permet surtout d'avoir des choix de consommation éclairés. C'est-à-dire, quand on veut consommer, on ne peut plus se dire « je ne savais pas ». On va consommer en connaissance de cause ou pas.
Donc là, il s'agit d'un livre engagé.
C'est un livre engagé.
Un peu loin du jardin du potager, mais pas tant que ça.
Pas tant que ça. Après, il est illustré aussi avec de très belles photos. Et moi, je trouve qu'il a une mise en page qui est particulièrement attractive. C'est un livre, pour moi, c'est un livre de chevet. C'est quelque chose qui, 6 mois, 1 an plus tard, va être relu. Et puis, 2 ans après, il va être lu à nouveau. C'est quelque chose qui peut être prêté aussi, parce qu'il ne faut pas oublier de partager les livres que l'on a aimés.
Tout à fait. Parlons de recettes.
Ah oui.
Et parlons pruneau, puisqu'apparemment, le pruneau, c'est le fruit phare de l'hiver. Et tu vas nous expliquer pourquoi.
Alors moi j'aime beaucoup le pruneau parce que c'est un aliment qu'on fait sécher donc au début de l'automne et que l'on conserve tout l'hiver. Il a beaucoup de vertus, il a du calcium, du potassium, du magnésium. Il a surtout des fibres qui sont quand même assez douces. Et il a aussi, pour ceux qui surveillent leur glycémie, un index glycémique qui est modéré à 35. Donc ça mérite d'être souligné. En général, les enfants l'aiment bien. Moi, je trouve que c'est un fruit qui est un petit peu délaissé. C'est dommage. Donc, je vais vous proposer une flognarde. C'est une recette que je tiens d'un employé de la maison Bérino-Martinet, qui est aussi le musée du pruneau à Lafitte-sur-Lot, qui est un endroit que j'aime beaucoup, qui est magique hein, et qui peut faire l'objet à la belle saison d'une jolie balade parce qu'on n'est pas très très loin de Lafitte-sur-Lot. Donc la flognarde, on a besoin de 100 g de farine et de 100 g de sucre en poudre qu'on va mélanger avec 200 ml de lait de manière à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. On rajoute 4 œufs entiers, alors évidemment des œufs de ferme, des œufs du marché, des œufs locaux, pas des œufs de supermarché, 100 ml de crème fraîche, hein, de la bonne, 400 g de beurre fondu tiède, on mélange bien, on incorpore ensuite 80 ml de rhum et 20 ml d'eau de fleur d'oranger. On rajoute ensuite 400 à 500 g de pruneaux que l'on va dénoyer. On cuit en four préchauffé 200 degrés pendant 30 minutes. À la sortie du four, on a une espèce de grosse crêpe. On saupoudre d'un petit peu de sucre en poudre et on va la manger tiède. Ah, ça se suffit à lui-même. C'est un très très bon dessert.
Super, merci beaucoup pour ce partage à découvrir. Donc, rappelle-nous le nom.
Une flognarde, donc c'est une très vieille recette, mais qui est très savoureuse.
Donc avec du pruneau à consommer avec modération ou sans modération ?
Comme tout, il ne faut abuser de rien, il faut profiter de tout. On peut aussi, si on veut raffiner un petit peu le dessert, on peut rajouter une glace au pruneau avec. On a un petit côté chaud-froid qui va être très sympathique.
Très bien, merci beaucoup Lydie. On vous donne rendez-vous au mois de mars pour une nouvelle chronique reconnaissante. D'ici là, semez bien, plantez bien, récoltez bien et on vous dit à des chats.
À des chats.